En janvier, je découvrais mon album de l'année, Goldie and the Kiss of Andromeda d'Adamnas. Dans une chronique, je jurais que je ferais tout ce qui est en mon possible pour le recevoir dans les studios de Radio Campus Paris. Quand je l'ai contacté, il m'a dit que malheureusement ou heureusement, il habitait Londres. Mais comme le hasard fait bien les choses, il s'avérait que moi, je partais pour le Royaume-Uni quelques semaines plus tard. On s'est officiellement rencontrés à son concert à la Flèche d'Or en février et on s'est mis d'accord. On organiserait une interview chez lui, au pays des Rolling Stones. Alors là, nous sommes le jeudi 23 mars 2023. Je viens de traverser Londres pour me procurer le dernier vinyle de l'album dispo avant réassort. Et pour la Fresh List, je vais interviewer Adamnas.
Ma vraie question, c'est comment tu vas?
Hyper bien.
Ouais.
Enfin, là, j'ai un petit rhume, comme tu peux t'en apercevoir. Donc, je passe le plus clair de mon temps à me moucher, mais à part ça, tout va bien. Je viens de jouer à Smash Bros. Je sais pas si tu connais le jeu Smash Bros. Melee.
Ouais.
Bah, je viens de jouer à ça avec mon copain, du coup, il vient de me battre 4 fois de suite, donc j'ai un léger somme qui est en train de flotter. Mais à part ça, tout va bien, il fait plutôt beau aujourd'hui, donc ça va.
Bon, je suis ici pour qu'on parle quand même de ton nouvel enfant,
yeah.
Goldie and the Kiss of Andromeda. J'avoue, j'ai découvert ton projet avec cet album-là. Il m'a tellement plu que je suis allée écouter ce que tu faisais avant, et on est quand même sur un changement, je vais pas dire radical, parce qu'on quand même retrouve des sonorités qui sont très propres, mais on est quand même sur quelque chose de très différent. On passe quand même de quelque chose d'explicitement soul à du rock plus 70, à plus de néo-soul plutôt. Quelles envies t'as eues voilà, pour ce nouvel album? Qu'est-ce qui t'a mené à ce changement pour Goldie and the Kiss of Andromeda?
Bah déjà, tu vois, je suis trop content que t'aies connu, que tu m'aies connu à travers le deuxième album, parce que c'était un peu ça ce que je voulais faire. Je voulais justement pouvoir un peu créer une relation avec d'autres personnes, etc. Enfin, le fait est que quand j'ai sorti mon premier album en 2018, qui s'appelle The Love Album, moi j'ai passé toute ma vie un peu à écouter justement de la soul et du jazz, etc. Donc c'est ce qu'on m'a inculqué d'un point de vue musical quand j'étais plus jeune. Et du coup j'ai vraiment fait de la musique comme ça. Et quand j'ai décidé d'enregistrer mon premier album, j'ai travaillé avec un producteur qui s'appelle Dan Black, qui est l'ancien leader d'un groupe qui s'appelle The Servant. Je ne sais pas si tu connais, mais à l'époque j'étais très très fan. Et en fait, lui, il est très fan de Prince, etc. Et moi, je ne connaissais pas tellement Prince. Et en fait, il y a une espèce de mix entre moi, mes affinités un peu plus soul, un peu plus jazz, et lui, ses affinités un peu plus justement rock, Prince, etc. Qui ont un peu fait le premier album. Mais c'était vraiment encore cet échange. Enfin, il y avait vraiment moitié moi, moitié lui. Et c'était vraiment génial parce que enfin, c'était vraiment une coproduction, quoi. Une co-réalisation. Et après, j'ai eu la chance de, avec cet album, faire une centaine de dates dans le monde. Et à partir du moment où j'ai eu la chance d'avoir un batteur qui est venu s'ajouter à notre band, là vraiment, ça a tout fait shifter. Genre, je me suis rendu compte de la présence de la batterie sur une scène, ce que ça représente, même d'un point de vue son, qu'est-ce que ça amène. Et j'ai vraiment reconnecté vachement plus avec le genre de musique que j'écoutais quand j'étais un peu à la fac, du coup, et que j'écoute beaucoup, beaucoup de folk. Et du coup, ouais, ça m'a donné envie de reconnecter justement avec toute la scène un peu justement indé rock et folk. Et du coup, ouais, en fait, en jouant ce premier album sur scène, au fur et à mesure des dates, à la fin de la tournée, genre c'était vraiment devenu même carrément punk. T'avais des morceaux qui étaient complètement punk, comme par exemple un morceau qui s'appelle Please Come Back to Me, qui se veut un peu plus pseudo-néo-soul, etc. Mais en live, en fait, c'était complètement punk. J'avais complètement changé toute la façon de faire cette chanson.
Ouais, ce qui est assez... Enfin, j'aurais bien aimé assister à ça, parce que c'est vrai que cet album, quand on l'écoute, il y a quand même un truc voilà, très chill, très mellow dans la façon de l'écouter, tu vois, même dans la façon de le recevoir, je trouve. Donc ouais, imaginez que tu as réussi à tourner ça de façon super punk, c'est...
Ouais, c'est bizarre.
Bah, non, pas enfin, bizarre. Bizarre dans le bon sens du terme. Ouais. C'est inattendu.
Inattendu, ouais. Ouais. Ouais, je sais que c'est quelque chose que les gens me répétaient souvent après les concerts. Genre, ah, j'aurais pas imaginé ça. Enfin, j'aurais pas imaginé que tu puisses chanter cette chanson comme ça. Mais les gens ils étaient plutôt hyper réceptifs, donc je suis vraiment genre, ok, trop cool, parce que moi, ça me fait... Enfin, je kiffe trop ce genre de version-là. Et en fait, justement, le live m'a vraiment fait comprendre que c'était ça que je voulais faire, quoi. Alors, c'était dans le genre de musique que je voulais évoluer. Et c'est le genre de musique, en fait, que j'écoutais tout le temps et qui me faisait vraiment kiffer, tu vois. Enfin, moi, il y a des artistes, comme par exemple, comme Adrienne Lenker, qui est la leader du groupe de Big Thief. Que j'aime beaucoup. Enfin, c'est vraiment une inspiration pour le coup total parce qu'elle a son projet perso où genre c'est Adrienne Lenker qui faisait des chansons folk où genre le lyricisme il est incroyable, il me donne envie de chialer toutes les 5 secondes. Et à côté de ça, il y a son band qui s'appelle Big Thief et avec qui ils font vraiment du rock un peu plus poussé. Et c'est vraiment une inspiration, quoi. Moi, je trouve ça génial. C'est un peu ce vers quoi j'ai un peu envie de me diriger vraiment.
T'as travaillé combien de temps à peu près là sur ce nouvel album?
Si on compte pas le Covid,
ouais.
Parce que en fait l'album devait un peu sortir justement, c'était prévu avant le Covid si tu veux,
ah oui, d'accord.
mais la date était prévue pendant le Covid. Mais en fait le Covid est arrivé, du coup ça a un peu tout déglingué, enfin entre guillemets, parce que j'avais déjà une espèce de pseudo album de prêt à l'époque, mais mon label me disait mais ça c'est trop rock, ça va être un peu compliqué quand même. Et après, il y a eu le Covid, donc c'était un peu une bonne excuse pour eux d'être en mode genre bon, prenons un peu de temps, etc. Mais en fait, moi, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment écrit d'autres chansons. Et donc oui, en vrai, l'album, j'ai vraiment travaillé dessus pendant 3 ans, 2 ans et demi, je dirais. Et dès que j'avais un peu de temps pendant le Covid, etc., genre j'allais à Marseille et du coup j'allais voir Chris. On a enregistré quelques maquettes. Et donc, ouais, on a vraiment fait cet album ensemble, elle et moi. Je lui ai dit, bon, bah vas-y, fuck, vas-y, tu seras la productrice de l'album, on y va. En plus, c'était le premier album qu'elle me produisait, donc c'était trop cool, quoi. Puis ça voulait dire beaucoup pour nous. Genre les petits gamins dans leur chambre
Ah, c'est trop
en train de
mignon.
produire leur album, c'était cool. Et du coup, après, quand il y a eu cette période de moment un peu où tout était un peu plus libre, j'ai vraiment forcé pour que tout le band et moi on se retrouve à Paris pour faire de la musique. Et en fait, très rapidement, j'étais un peu en mode genre chuchute, on va en fait enregistrer l'album sans vraiment le dire au label. Donc c'est ce qu'on a fait.
Très punk, encore une fois.
Ouais, non, mais en plus c'était un peu la galère, quoi, parce que forcément, de toute façon, le milieu de la musique, c'est un peu ce que c'est, quoi. En fait, c'est plus en tout cas ce que c'était. Et du coup, très rapidement, tu te rends compte que, bon, après, moi j'entretiens des plutôt bonnes relations avec mon label, mais en fait, le truc, c'est que c'est plus des partenaires vraiment, quoi. Ils sont plus là pour vraiment se battre corps et âme pour que ton truc marche, etc. Maintenant, c'est un peu une machine, et en fait, si ça marche, c'est cool, si ça marche pas, bon, bah voilà, quoi. Il n'y a plus ce truc de on va y
Je
arriver, on
crois
va
en ton
faire en
projet, je veux
sorte, enfin tu vois.
l'accompagner.
Parce qu'ils ont tellement d'artistes, ils ont tellement de choses et tellement peu de personnes qui travaillent, parce que justement il y a des effectifs qui disparaissent, etc. Enfin, du coup, c'est un peu. T'as plus ce côté, en fait, on va créer une aventure ensemble, quoi. Et en fait, très rapidement, je me suis dit que je devais attendre personne et que je vais faire foncer, moi, et faire mon truc. Et en fait, et après, eux, s'ils suivent, tant mieux, mais sinon, on s'en fout, quoi.
Parce que du coup, ouais, donc en termes de temporalité, l'album a été enregistré avant ou après la pandémie? Enfin, je veux dire avant ou après le confinement.
Il a été enregistré tel que tu l'entends maintenant,
Ouais.
il a été enregistré après le confinement. Ouais, il a vraiment été enregistré en juin. Il y a eu 2 sessions et c'était la dernière, elle était en juin 2022.
Ok. Du coup, est-ce que tu dirais qu'il y a un avant et après Londres dans ton projet musical?
Ouais, clairement. Il y a un avant après Covid, mais il y a surtout ouais, un avant après Londres parce que. Moi, j'ai déménagé à Londres parce que j'avais besoin de justement créer une relation avec ma queerness, etc. Chose que j'avais pas nécessairement à Paris parce que en fait, j'ai eu la chance en fait de garder mes potes de lycée pendant toute ma vie à Paris. Donc ça fait 15 ans qu'on était tous ensemble et qu'on se voyait un peu tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc ça crée une grosse bande. Enfin, tu sais, on est une bande de 15 personnes. On s'est tous connus au lycée, donc c'est très, très, très fusionnel. Mais donc forcément, en fait, ça t'oublie un peu les autres choses qui participent à ta personnalité ou bien qui font de toi ce que t'es, parce que t'es tellement un peu caught up dans la vie des autres, etc., que t'as tellement une espèce d'habitude qui s'est créée avec le temps, qu'en fait, tu te poses pas nécessairement les questions en fait, sur ta propre existence. Et moi, très rapidement, j'ai vu que dans mon groupe, au sein de mon groupe, en fait, il n'y avait pas de personnes qui étaient vraiment racisées, queer, enfin tu vois, qui représentait un peu cette forme d'intersectionnalité. Et même si je les aime à la folie, c'est des choses qu'ils peuvent pas nécessairement comprendre, même s'ils sont très.
C'est pas leur réalité,
Oui,
quoi.
voilà, c'est pas la réalité. C'est des choses que j'ai voulu un peu comprendre ici, et du coup, très rapidement, ça c'est. J'ai eu beaucoup de chance en déménageant ici, parce que très rapidement, je me suis fait un groupe justement de potes. Moi, je connais aucun cis hétéro, à Londres, quoi, enfin tu vois. Genre tous mes amis sont queer, majoritairement non binaires, etc. Donc du coup c'est très, ça me fait plaisir, c'est hyper inspirant. Et du coup évoluer dans ce genre de milieu m'a un peu forcé à dans le lyricisme et dans les paroles, etc. Un peu développer ce truc de, en fait c'est quoi, genre si j'ai envie de parler aussi un peu de d'écrire une chanson pour mon cum qui m'a fait genre une soupe, enfin tu vois, ce genre de choses et de pas nécessairement le cacher, tu vois. Je trouve que c'est toujours cool quand t'es un artiste de garder une part de mystère, mais j'ai pas voulu non plus, comme dans le premier album, être un peu créer vachement de distance, tu vois. Donc
J'ai l'impression de voir deux personnalités différentes entre ton premier album et ton deuxième album. Et en plus, comme je te dis, je suis peut-être un peu biaisée parce que je t'ai découvert avec le deuxième album. Mais justement, donc tu parles du fait d'être entourée de personnes queer et que ce soit une réelle source d'inspiration, de motivation pour toi. Et justement, ça mène à ma question. Donc t'es sur une DA qui est totalement différente et tu parles de camp toi-même dans ouais. le TikTok, tout ça. j'adore. Pour toi, c'est l'esthétique qui va avec les sonorités que t'as trouvées là. Comment l'aspect visuel est entré en lien avec l'aspect musical, selon toi, pour ce projet?
Je pense que ça s'est vraiment fait conjointement, dans le sens où, à partir du moment où j'avais un peu les idées en tête de chansons et de musique et vers quoi je m'orientais, il y a un peu cette image qui s'est créée un peu dans ma tête, instinctivement, quoi. Après, moi, c'est une image qui m'a toujours un peu plu, parce que ce genre de côté un peu... Enfin, je sais pas comment décrire, mais ce côté un peu glam de ce qu'est la musique et surtout à travers l'image. Enfin, tu vois, moi, je suis trop fan de tout ce qui est New York Dolls, etc. et tout. Enfin, tu vois, genre, plus les gens mettent des talons et mettent du make-up et ont des espèces de froufrou et tout, moi, ça me fait trop kiffer. Et du coup, c'est un peu ce truc-là, même si je sais que l'image que j'ai choisie, c'est pas nécessairement ça, mais c'était un peu une référence dans ce truc d'être un peu plus décomplexé et puis de créer un peu cette espèce de sentiment de troupe, tu vois, parce que en fait pendant très longtemps avec l'album j'ai hésité parce que la photo qui est derrière sur le verso c'était la photo que je voulais mettre au recto à l'origine.
Okay.
Et parce que je voulais justement mettre toutes les personnes qui ont participé sur cet album en première, tu vois. Bon, après on m'a dit pour les promos ça va être un peu compliqué parce que c'est mieux d'avoir ton visage à toi, blablabla. Je me suis dit bon, pourquoi pas, mais en tout cas je veux qu'il y ait quand même une photo du band à un moment. Et je voulais vraiment créer ce sentiment de troupe, tu vois, parce que c'est un peu comme ça que je vois ma vie de manière générale, tu vois, j'ai beaucoup de troupes, tu vois, j'ai mm-hmm. beaucoup de groupes, j'ai mon groupe du lycée, j'ai mon groupe queer, j'ai mon groupe, enfin tu vois, j'ai ce truc de trucs là que j'aime beaucoup, j'ai le groupe de la musique, etc. Donc j'aime bien ces espèces de films comme ça, ou de bouquins, ou qui parlent de plusieurs caractères, de plusieurs personnages, et qui les lit tous ensemble, etc. C'est un truc, moi, qui me fascine de manière générale. J'adore les relations entre les humains, quoi. Et donc, l'image, elle est venue un peu de ce truc-là, et puis avec des références aussi qui sont un peu, justement, inspirées de ces années-là, de glam, etc., comme des films comme Velvet Goldmine, ou bien tu vas voir Rocky Horror Picture Show, qui, pour moi, est, pour le coup, l'inspiration première de tout ce que je fais vraiment, quoi. Enfin, et puis t'as une phrase qui est un peu un motto, qui est un peu une phrase sur laquelle je me raccroche maintenant tout le temps, qui vient de ce film et qui de Tim Curry à la fin, qui dit don't dream it, be it, tu vois. Et du coup, moi, c'est un peu un truc qui me prend, quoi, au corps, quoi. Et du coup, cette image, ouais, elle est vraiment inspirée de ça, voilà, ce petit côté un peu légèrement gigolo, légèrement BDSM que tu peux avoir sur un New York des années 70, tu vois. Je trouve ça...
Tu parles de troupe, c'est super symbolique, parce que la troupe, c'est le spectacle, en plus.
Ouais, ouais, exactement. Mmh. C'est très théâtral, tu vois. Et moi, je trouve que la vie manque de théâtre en ce moment. Parce qu'en même temps, c'est normal. Je pense qu'il y a tellement de traumas qui s'est passé là, ces dernières années, que les gens n'ont pas nécessairement... Enfin, je pense qu'il y a des gens qui choisissent d'aller dans le théâtral parce qu'ils ont besoin de trouver une espèce de réponse et de magie à la réalité qui est très morose et très, très déprimante, finalement. Et t'as d'autres qui essaient de plus être dans la lutte, etc., etc. Je pense pas que les deux soient mutuellement exclusifs, mais moi, je prends mon militantisme et j'essaie de le rendre un peu plus théâtral, etc., mais tout en aussi participant à les trucs d'association, etc., et en étant là, quoi. Mais je trouve que j'essaie de passer de plus en plus par l'humour dans ma vie, parce que j'étais sérieux pendant très très longtemps, et j'en ai un... C'est pas quelque chose qui me plaît d'être sérieux tous les jours de ma vie, quoi. Donc j'essaie d'être un peu plus goofy, un peu plus théâtral. Et quand j'ai designé aussi dans ma tête, du coup, le show pour cet album, genre c'était un moment incroyable, parce que genre j'étais comme un ouf à justement prendre des références de partout, de pièces de théâtre que j'adore, etc. et tout.
Par exemple, quoi, en pièces de théâtre?
Bah après, c'est des pièces de théâtre de potes à moi qui ont fait des pièces de théâtre et que je trouve ça génial. Mais encore une fois aussi, tu vois, par exemple, au Kier Picture Show, qui est aussi du coup quelque chose qui est très théâtral, parce que c'est comme ça que ça a commencé. C'est vraiment justement créer des espèces de vocabulaire et de créer une espèce de relation avec le public qui n'est pas juste celle de t'es un spectateur et tu vas bien voir un artiste qui est en train de jouer son album sur scène, quoi. Je voulais ce côté un peu plus théâtral.
On parlait de troupe et ouais. T'as un post Instagram archivant en avant où tu dis bah voilà tous les gens qui ont travaillé, donc déjà tu parles beaucoup voilà de du band, du fait d'être avec des gens. C'est qui cette équipe alors? Tu nous les présentes un petit peu?
Oh bah ouais je alors toute cette équipe s'appelle un peu genre les Andromeda d'une certaine manière. Moi pendant très longtemps je me suis dit bah, si c'est un side project j'appellerai Andromeda ou quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai pas arrêté de parler d'Andromeda à chaque fois. Et au bout d'un moment, mon manager à l'époque, qui fait partie des Andromeda Kids, sur la pochette de l'album, c'est l'espèce de l'ange de la mort, comme ça, qui est un peu en vieux drague. Du coup, m'a dit vous êtes un peu les Andromeda Kids, quoi. Et en fait, c'est un peu resté. Et du coup, dans ces Andromeda Kids, bah, t'as Chris, du coup, qui est la coproductrice, qui est aussi la bassiste. T'as Louis, qui est le guitariste. T'as Arnaud, qui est le batteur. T'as Guillaume. Qui est l'ingé son, qui était l'ingé son sur les albums et sur le live. Donc t'as Dado qui est mon ex-manager, mais qui est mon meilleur pote aussi, enfin tu vois, qui fait partie du truc. T'as Annie qui fait de la musique, Annie Burnell, et qui joue du coup avec Arnaud et Louis aussi à côté. Et après t'as Meryn Jean qui est une de mes artistes à coup de cœur au monde. Que j'aime à la folie, du coup, qui a fait la musique avec Chris aussi après. Donc, tu vois, tout ce truc-là, en fait, toute cette troupe, genre, fait vraiment de la musique ensemble. Enfin, tu vois, il n'y a pas de. Genre, dès qu'on peut aider sur un truc, on est là. Enfin, tu vois. Donc, du coup, tout le monde a participé à ce deuxième album d'une manière ou d'une autre.
Tu dis que c'est un album un peu choral, quelque part, tout le monde a mis son grain de sel. C'est quoi le processus créatif derrière cet album, et toi, ton processus créatif en général?
Bah, pour cet album, j'ai vraiment. C'était important pour moi, quand même, de. Tout écrire, tout composer. Du coup, j'ai tout écrit, tout composé. Et puisque j'ai eu le temps, en fait, de tout écrire, tout composer, parce que pendant le lockdown, enfin, pendant le confinement, tu te fais chier, donc tu prends ta guitare et du coup, tu composes des morceaux. Et ça qui était cool aussi avec ce lockdown, c'est que du coup, j'ai vraiment repris aux sources l'écriture des chansons, donc juste guitare-voix et paroles. Et ça se fait comme ça. Et donc, du coup, comme je te disais, après, j'allais à Marseille quand j'avais le temps, quand j'avais la possibilité. Pour enregistrer avec Chris, pour faire des maquettes proprement, et après aller en studio et enregistrer le plus rapidement possible, quoi. Donc le processus de création c'est vraiment fait comme ça, quoi. T'as vraiment trois étapes. L'étape écrire toutes les chansons à la maison tout seul avec la guitare et faire tout l'arrangement, imaginer toutes les parts, etc. En parler à Chris, on les fait ensemble, etc. Et puis après tout enregistrer avec le band. Vraiment différent du premier album en termes de production et d'écriture. Et ouais, c'était comme ça que je voulais un peu un processus de création un peu old school, quoi. Et pour après l'enregistrement, je voulais qu'aussi ça soit un peu old school et un peu lo-fi, un peu genre, enfin tu vois, DIY, quoi. Tu sens de toute façon quand t'écoutes un peu l'album qu'il y a plein d'imperfections qui ont été laissées. Principalement, enfin tu vois, t'as une espèce de. Le piano qu'on avait dans le studio, c'était un piano, genre vraiment un saloon, quoi. Genre, il faisait du bruit, il grinçait comme jamais. Genre, j'ai essayé pendant 2 jours de le réparer. Bref, j'y suis pas arrivé. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, les gars, on s'en fout. Parce qu'en fait, les gens commençaient à paniquer en mode, genre, putain, le grincement, c'est trop fort, on n'arrive pas à pouvoir l'enlever en mix, etc. Je me suis dit, bon, bah, en fait, on s'en fout, quoi.
Mais tu vois, c'est rigolo que tu dises ça parce que moi, justement, quand j'ai écouté cet album, je me suis dit, mais c'est. Je trouve que tout est calibré. Tout m'a l'air calibré dans le sens où les imperfections, on a presque l'impression qu'elles ont été rajoutées parce que c'était trop, trop propre, tu vois. Vraiment. Mais après, je pense que je suis pas objective sur cet album parce que très honnêtement, c'est pas pour te faire plaisir, mais ça une gifle. Il m'a couché. Il m'a couché. Et là, du coup, moi, je suis vraiment. Bon, je suis touchée par beaucoup de choses, mais par les paroles de tes chansons me transpercent. L'écriture, elle vient quand? Est-ce que c'est plutôt, t'as ta mélodie et t'as des chansons qui traînent d'un côté, tu dis, bah tiens, si je mettais en commun, est-ce que t'as ta mélodie, tu dis, il faut que j'écrive pour cette mélodie, est-ce que t'as des paroles et il faut que je mette une mélodie sur ces paroles?
Ça dépend vraiment. Pour cet album-là, ça a vraiment été. Parce que du coup, j'ai vraiment beaucoup écrit. Sans penser à musique, justement. Genre, je pensais plus poème, poésie. J'avais toujours mon notebook et genre, j'ai toujours mon portable. Et du coup, dès que j'ai une ligne qui me vient, enfin, tu vois, je sais pas si t'as ça, mais de temps en temps, t'es un peu en dissociation et genre, tu penses à des espèces de. Je sais pas, il y a des phrases comme ça qui te sautent en pleine gueule. Et du coup, de temps en temps, tu réalises et t'es en mode genre, ok, tu prends ton portable et vite, tu l'écris, etc. Et en fait, j'en avais plein, plein, plein. J'avais des pages de phrases comme ça, ou même que je lisais, que je trouvais hyper, hyper inspirante. Et du coup, très rapidement, en fait, quand tu sais sur quoi un peu tu veux écrire, tu t'orientes un peu toutes ces phrases-là qui te sont passées par la tête et tu leur donnes un peu un sens. Donc, c'est vraiment comme ça que cet album s'est créé. Et genre, j'ai vraiment vachement, pour le coup, adoré écrire ces chansons parce que. Ouais, j'ai juste trop aimé écrire ces chansons et j'étais content de les écrire, tu vois. Et après, du coup, venait à ce moment-là un peu la musique, quoi. Parce qu'avec avec la musique, c'est un peu pareil, tu vois. Enfin, en vrai, je fais pas mal de guitare quand je suis à la maison, donc après, tu t'enregistres, tu vois, t'es un peu genre, ah, ça sonne bien, etc. Tu prends une vidéo et puis après, tu dis, mais attends, peut-être que ces paroles, ça pourrait marcher sur cette chanson-là. Et en fait, tu fais en sorte que les paroles tombent sur cette chanson-là. Et après, ça te fait une chanson, quoi, c'est cool.
Ouais. Parce que ton instrument, toi, à la base, c'est la guitare.
Ouais. Ouais. Après, je joue un peu de piano, mais genre, je. En fait, le piano, je trouve que quand tu composes sur le piano, ça devient tout de suite très mélodrama. Et. Enfin, vu que je suis pas bon pianiste, je suis pas genre. J'arrive pas à jouer comme Elton John, quoi. Donc. Le côté un peu, justement, genre, très théâtral, très comédie musicale que peut avoir le piano, que moi j'adore, j'ai pas ce niveau-là, donc je peux pas l'atteindre. Ouais. Du coup, tout ce qui est piano, ça devient très rapidement des trucs un peu genre dépression, genre. Et du coup, c'était pas trop un peu l'objectif. Et la guitare, je sais pas, j'aime bien. Du coup, j'ai ma petite guitare que j'aime beaucoup, qui m'a été offerte par le band. Genre un petit 3 quarts comme ça, qui est trop mignon. Et du coup, j'ai tout composé dessus. Petite guitare sèche, quoi. Et ouais, à la différence du premier, pour le coup, où tout a vraiment été un peu fait à l'inverse. Genre, je faisais la chanson et en même temps j'écrivais les paroles et genre je me cassais la tête à essayer de faire en sorte que ça rentre parce que j'avais déjà une mélodie, etc. Mais j'avais pas les bonnes syllabes, etc. Donc, ouais, c'était vraiment. J'ai vraiment bien aimé.
Et c'est quoi tes sujets favoris ?
Bah, j'ai répété à plusieurs reprises que c'était un peu l'amour et la mort, quoi. Ouais, je sais pas, l'amour de manière générale, bon, bah, forcément. Mais là, je pense que mon sujet favori, hein, c'était vraiment la thématique un peu de la réalité, quoi. D'écrire, en fait, des choses qui ont un sens et qui sont un peu plus détaillées et qui sont... Enfin, tu vois, il n'y a pas un moment dans cet album où, genre, j'écris quelque chose qui n'était pas vrai ou... Enfin, tu vois, tout est... C'est des choses que j'ai pu penser ou des choses que j'ai pu, genre, vivre, etc. Même si, de temps en temps, dans les chansons, genre, je prends un angle qui n'est pas personnel ou, genre, je parle comme si je parlais de quelqu'un d'autre, etc. Mais en fait, tout ça, c'est des choses qui me sont arrivées. T'as des chansons comme Six Feet Under qui sont hyper déprimantes, mais en fait, qui sont justement plus un hymne à la vie qu'à la mort, finalement. Mais qui sont vraiment, justement, des choses que j'ai pensées. Enfin, j'ai pensé un jour... en fait, ce serait tellement plus simple si j'étais, en fait, genre, 6 pieds sous terre. Je pourrais vraiment rêver toute ma vie et, en fait, pas me prendre... pas me poser autant de questions, genre me faire autant de la peine, quoi. Donc c'est la thématique de la réalité, je dirais, enfin, tu vois.
T'as des inspirations textuelles un petit peu, des trucs où, enfin, des je sais pas, des poèmes, des bouquins qui t'ont... tu sens que t'as inspiré dans l'écriture, dans ta façon d'écrire?
Ouais, je pense quand même, enfin, à côté de... enfin, tu vois, sur mon chevet, il y a toujours un T.S. Eliot qui est là, enfin, parce que... genre, j'aime beaucoup T.S. Eliot, mais après, t'as du Bukowski aussi. J'étais dans une grosse période James Baldwin, à l'époque où j'ai écrit quand même l'album. Après, ça se ressent pas forcément, mais je trouve que James Baldwin, c'est quand même quelqu'un qui écrivait vachement justement sur la réalité de sa vie, sur toutes les choses qui traversaient, etc. Et genre, je trouve que... ouais, j'ai vraiment cherché à essayer de m'entourer, enfin de me nourrir d'œuvres qui étaient vraiment ancrées dans la réalité, quoi. De gens qui n'utilisaient pas de métaphore, qui allaient directement dans le truc et qui essayaient de taper dans le mille, enfin ouais, de pas se mentir, quoi. Bah oui, après, du coup, forcément, bah Daniel Johnston, quoi, que j'écoutais vraiment tout le temps, et je pense qu'il se ressent vraiment pas mal. Donc ouais, ce genre de truc, quoi.
Ben justement, en parlant de réalité, donc moi je t'ai vu en concert il y a un mois et demi, je crois, à la Flèche d'Or.
Ouais.
Et au moment où chantait Forever Mine, tu nous as dit que tu avais écrit cette chanson pour ton copain qui voulait pas de toi à l'époque, donc aujourd'hui vous êtes ensemble. Donc moi, la question c'est, est-ce que ça vaut le coup d'écrire des chansons d'amour pour des gens qui veulent pas de nous? Est-ce que c'est... ouais, ça vaut le coup. Est-ce qu'à la fin on finit avec la personne ou pas?
Bah, j'ose espérer, j'espère. J'espère.
Moi, je souhaite que le bonheur aux gens, quoi.
Ouais.
Après, l'histoire de cette chanson, elle est un peu drôle parce qu'en fait, j'avais écrit la moitié quand on n'était pas ensemble, un peu, et la moitié après, on était ensemble. Ouais, peut-être que il y a un espèce de truc un peu énoncé, performatif à écrire une chanson finalement qui.
Manifester.
Ouais, exactement.
D'aller du coup dans ton intimité quand même. Effectivement, tu vois, tu vis quelque chose d'un. Enfin voilà, une potentielle peine de cœur quand même, enfin, un truc qui te mine. Et justement, se dire, cette réalité-là, je vais la mettre dans une chanson, et peut-être que cette personne qui veut pas de moi un jour, elle écoutera cette chanson. Comment on se sent vis-à-vis de ça? De se dire, bah là, je vais me mettre à nu. Donc déjà, tout le monde va le savoir, mais à la limite, on peut s'en moquer de ce que pensent les autres. Mais cette personne-là va entendre cette chanson que j'ai écrite sur elle.
Ouais, bah il y a un petit côté fucked up, ouais. Il y a un petit côté fucked up, mais après, comme tu le disais, c'est aussi un truc assez général, enfin, ça traite d'une généralité, et je pense que il n'y a rien de mieux dans l'art, de manière générale, que quelque chose qui est relatable. Donc à partir du moment où tu t'écris sur une chanson, tu fais un film, enfin, t'écris un poème sur quelque chose qui parle aux gens, le fait de savoir que la personne qui est concernée va lire, etc., c'est pratiquement anecdotique en fait, parce que t'attends rien, quoi, t'es juste en mode genre en fait il s'est passé ça et j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin d'en faire quelque chose, tu vois. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent considérer ça un peu comme cringe et se dire genre ah c'est un peu bizarre, enfin tu vois qu'est-ce que l'autre va penser, etc. Mais moi je trouve que je sais pas, j'aime bien. Et puis ça te met un peu en position de risque, un peu en danger, je trouve ça pas mal. C'est bien de se mettre en danger, je trouve, de temps en temps, quand même.
Du coup, moi j'ai appris ça en concert, j'ai appris que tu avais écrit cette chanson-là en concert. Et parlons justement de concert. Est-ce que c'est un album que tu as pensé pour le live?
Ouais.
Ouais.
Ah ouais, à 100%. À 100%, et d'ailleurs, le fait que peut-être j'ai pas l'opportunité de le faire en live, c'est un peu problématique, tu vois. Mais oui, il a vraiment été pensé live et en fait, c'est parce que la force aussi de ma musique, c'est que c'est une musique qui est live et quand on venait me voir en concert, je pense qu'il y avait vraiment un truc qui se passait. Et surtout avec le band, quoi, parce qu'en fait, je m'amuse vachement sur scène et je pense que c'est un truc qui se voit et on s'amuse vachement entre nous et j'ai vraiment voulu rendre hommage justement aussi à cette relation qu'on a ensemble sur scène, de le voir et de l'entendre dans cet album. Et tu vois, même les trucs de garder un peu les voix des gens dans les enregistrements, à la fin des chansons, les prises, etc. et tout. Enfin, je voulais un peu qu'il y ait de leur voix aussi. Je voulais qu'il y ait un peu de leur énergie, tu vois. Donc il a vraiment été pensé live. J'ai écrit toute une pièce carrément, enfin, tu vois, du live en PDF, en moodboard, que j'avais envoyé à mon label, à mes tourneurs, etc. et tout. Ils m'ont dit, ah oui, quand même, c'est très développé, quoi. Mais je me rappelle avec mes colocs de l'époque, qui pas ceux-là, mais ceux qui habitaient ici avant. Genre, justement, j'écrivais un peu quelques parties de mon live, genre, je leur faisais tout mon show, genre, du début jusqu'à la fin, et tu sais, ils étaient là, moi, genre. Et genre, on s'aidait, ils me disaient, bah, ça, change-le un peu, ça peut être cool de changer, tu vois. Et du coup, j'étais hyper excité, tu vois, du live. Et j'avoue, là, de parler du live et de savoir que je vais potentiellement pas pouvoir le défendre sur scène, cet album, c'est un peu tristoun.
Comment ça se fait que tu pourrais pas le défendre sur scène?
Bah parce que c'est des trucs de business, de la
Ouais,
musique.
c'est vraiment ça. Parce que bah du coup mes questions suivantes, je sais pas dans quelle mesure elles sont vraiment pertinentes, mais j'ai vu donc ton passage à Culture Box où t'es juste du coup en guitare en voix sur un enregistrement. À la Flèche d'Or, t'es en guitare voix seulement. C'est quand même super protéiforme comme tout ce que t'as écrit là. Et du coup effectivement. J'allais poser la question de dans quelle mesure aussi enfin tu réussis à jouer avec tout ton groupe. En fait, j'ai l'impression que chaque représentation a vraiment une teinte différente.
Bah ouais, après c'était pas nécessairement voulu parce que moi si j'avais eu l'opportunité de pouvoir jouer tous ces moments-là avec le band, je l'aurais fait. Mais bon, après t'as des trucs de on n'a pas assez de sous pour payer les musiciens et moi je veux vraiment que tout le monde soit payé, je veux enfin l'éthique aussi du travail dans le milieu de la musique, c'est quelque chose qui est vraiment mais waouh. Genre les gens se permettent, enfin les artistes se permettent des choses quand même que moi je trouve vraiment injustes et dégueulasses. Enfin moi, quand on joue avec moi, genre, c'est pas parce que je suis le leader et que les chansons, c'est les miennes, que tu vas être payé moins ou que je vais prendre plus. Genre, dès que j'ai un cachet, moi, je le partage enfin, je le divise en nombre de personnes, quoi. Je garde pas pour moi, genre, je me bats pour les contrats des musiciens, etc. Donc, tout ça, ça prend du temps. Tout ça, ça complique des relations parce que forcément, quand t'es une personne comme ça, les gens dans le milieu de la musique, ils ont un peu tendance à être réticents à vouloir travailler avec toi parce qu'ils savent que bah, ça va pas rouler, quoi. Que tu vas pas te laisser faire et que forcément, tout va devenir un peu pour eux, genre une espèce de un combat. Mais en fait, pour moi, c'est un combat que tu dois mener. En fait, quand t'es un artiste, tu te dois d'être.
Mais c'est eux qui en font un combat en plus.
Oui, non, mais c'est clair. Et tout devient compliqué, et après on te sort de plein d'excuses de, tu sais, depuis le Covid, c'est compliqué, nanana. Et tout ça, c'est du bullshit, etc. Donc moi, en fait, tout ça, c'est... J'essaie de me préserver aussi, parce que en fait, j'ai tellement galéré aussi à sortir cet album. Enfin, pendant très longtemps, je me suis dit qu'en fait, il allait jamais sortir, j'ai vraiment dû vraiment batailler. Après, il y a des personnes dans le label qui m'ont vraiment aidé, et qui ont vraiment aussi bataillé pour que ça sorte. Donc ça, je suis hyper reconnaissant. Mais c'est beaucoup de stades à passer pour que ça sorte, et beaucoup d'embrouilles, et beaucoup de prises de tête. Et du coup, moi j'ai besoin un peu de me distancer de tout ça, et de penser un peu à ma santé mentale, et de me dire, attends, il faut que... Et aussi, en fait, trouver des partenaires qui croient, en fait, à tout ça. Et là, je suis peut-être arrivé justement à une espèce de... à un crossroad où je me dis, attends, il faut que je prenne mon temps, il faut que je... Faire de la musique en France avec la musique que je fais, je pense pas que ce soit forcément quelque chose qui...
Hein. Ouais. La France est encore très hermétique. Déjà, ça fait seulement quelques années, je trouve, qu'on sort un peu des sentiers battus du rock. Genre, on a un peu dit, ok, Indochine, c'est bon, c'est terminé, tu vois. Enfin, terminé dans le sens où on peut passer à autre chose. Mais du coup, maintenant, en plus, si tu fais du rock et que tu chantes pas en français...
Ouais. Oui,
tu restes dans ta niche, quoi.
Ouais.
Tu restes dans ta niche. Surtout, en plus, quand il s'avère que là, tu vis pas en France, donc t'es pas disponible quand... Enfin, c'est très compliqué, je le vois, ne serait-ce que nous, à la radio, et du coup, pour faire un peu de management aussi de groupe,
ouais.
D'un groupe français de rock qui chante en anglais, c'est... Ouais.
Ouais.
T'es un gros bébé, en fait, aux yeux des gens.
Ouais, ouais.
Un gros bébé.
Ouais, non, c'est pas... C'est pas facile, et en fait, forcément, quand t'es aussi dans une major... Enfin, oui, moi j'ai eu la chance de.
Enfin,
ouais.
Contraintes surtout.
Mais c'est aussi parce que, en fait, eux ils suivent. Enfin, ils suivent. Non, parce que c'est eux qui l'ont créé, mais le marché est fait de telle sorte que. Maintenant, ce qui prend beaucoup de place, c'est le rap, et c'est tant mieux. Enfin, je trouve ça génial que le rap ça prenne beaucoup de place. Mais la France, c'est quand même pas un marché où il y a beaucoup de place pour d'autres choses. Ou en tout cas pour d'autres choses qui ne marchent. Enfin, qui sont pas genre en tête d'affiche, quoi. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a plein de groupes qui sont incroyables et que moi j'adore et que les gens, enfin les gens n'entendent même pas parler alors que c'est un talent monstre, tu vois. Et moi j'ai juste décidé de bouger en fait et de pas essayer de me battre tous les jours pour que ça marche, etc. et tout en France. Enfin, j'ai un peu envie de reprendre de zéro ici et de me dire en fait... quitte à galérer, autant galérer dans un pays au moins où genre, j'ai peut-être la chance que ça marche, tu vois. Le truc, c'est que je trouve que ça fait plus sens et en fait, je m'éclate plus. Et j'ai moins l'impression de considérer ça comme un métier ici qu'en France, tu vois. Et ouais, je trouve ça cool.
C'est cool. C'est bien. Je suis contente qu'on finisse sur cette question, sur cette note un peu positive, parce que j'étais vraiment trop mal, j'étais vraiment en mode...
Mais non.
Du coup, j'ai quand même une question. Et j'ai un peu l'impression de te demander de choisir entre tes enfants, mais c'est quoi ta chanson préférée de l'album?
Ma chanson préférée de l'album, je dirais que c'est, et bizarrement c'est pas une chanson dont les gens parlent, mais genre c'est Sunny Ride, dans le sens où c'est la seule chanson de l'album qu'on a tous écrit ensemble, et c'était vraiment du coup une chanson qu'en fait on a écrit pendant qu'on tournait le premier album, et en fait on était en studio, genre j'étais vraiment genre putain les gars j'ai un peu cette ligne, genre venez on fait... On écrit dessus, etc. Et en fait, en une journée, c'était plié, on avait écrit de la chanson. Et t'as Meryn à la fin qui pose sa voix dessus et qui, moi, me fait mourir de rire. En fait, c'est l'enregistrement de cette chanson qui était vraiment trop drôle.
Okay.
Et dès que je pense à cette chanson, je pense à tout ce qu'on a vécu en band, les heures et les heures dans le van, les bouteilles et les canettes de bière qui ont été sifflées, genre toutes les milliards de souvenirs que j'ai. Donc, c'est peut-être ma chanson préférée dans l'album. Quand on parle de l'album. Mais j'ai un peu l'espèce de truc, j'ai un peu une relation particulière avec Six Feet Under, où genre j'ai un peu ce truc-là de. C'est vraiment ma chanson, tu vois ce que je veux dire? Genre c'est ma petite chanson, c'est mon petit.
C'est
Si on
rigolo que
parle
tu...
de bébé, c'est ça quoi, c'est mon
Ouais.
petit bébé où je
Mais
suis
c'est
en
rigolo
danger.
que tu dis ça parce que pour moi les deux, je sais pas, enfin je sais pas dans mon cerveau comment ça s'écrit, mais elles se répondent quelque part parce qu'on a du coup Six Feet Under qui est au milieu de l'album qui certes il y a un super petit air trop mime, ça la guitare est trop mignonne et tout, mais les paroles sont quand même assez rudes. Et on termine avec du coup Sunny Ride qui est en mode bah voilà, c'est voilà, on est sur l'autoroute et puis on verra bien ce qui se passe. Les deux je trouve sont un palier l'une vers l'autre.
Ah bah ouais, j'aime bien.
Voilà. Moi j'ai ressenti comme ça. Donc ton album Gordy and the Kiss of Andromeda. Pourquoi ce nom? Parce que tu m'as dit t'avais tout un truc avec en plus Andromeda et j'ai vu dans un article que on parlait de Gordy comme ton alter ego anglais. Est-ce que c'est des choses qui te semblent pertinentes?
Ouais, bah en fait Goldie, c'est du coup c'est mes potes qui m'appellent comme ça ici. Enfin, tu sais, en Angleterre, ils ont vraiment le surnom très facile.
Ouais.
Donc moi j'ai eu Goldie, je serais content. Ça aurait pu être pire. T'entends, on m'appelle le gobelin aussi, donc tu vois, ça passe d'un truc à l'autre. Mais Goldie, je sais pas, ça a fait sens tout de suite. Et en fait, je voulais justement un peu un album, un nom d'album qui soit un peu justement théâtral, et du coup, enfin, tu vois, tout le Ziggy Stardust, etc. et tout, moi, c'est des trucs qui me parlent vachement. Mais après, Andromeda aussi, ça a tellement de significations particulières. Enfin, c'est un personnage de manga que j'adore, c'est un tatouage que j'ai sur le corps, c'est un mythe grec que j'adore. Enfin. Et du coup, The Kiss of Andromeda, c'était. Je sais pas, je trouve qu'il y avait un peu une sonorité moi qui me plaisait vachement. J'ai l'impression de tomber sur une espèce de livre un peu genre chair de poule à la bibliothèque, tu vois, genre et les chiens des Baskervilles. Enfin, tu vois, genre un peu ce
Ouais.
truc-là de. Moi, j'aime bien ce truc-là de nana et la. Enfin, tu vois, je trouve
Ouais.
que c'est. Je sais pas. C'est tout de suite, ça raconte une histoire, quoi. Tout de suite, c'est très fantastique. J'aime bien le fantastique.
Et c'est quoi les meilleures conditions pour écouter Gordy and the Kiss of Andromeda selon toi?
J'ai vraiment écrit cet album pour la bagnole en vrai.
Ouais.
Ouais, moi j'adore les. Bah après, tu vois, comme je te disais, tu vas avoir passé autant de temps sur la route et écouter tellement d'albums sur la route, parce que quand t'es sur la route, t'écoutes pas une chanson et tu passes un truc, tu vois, parce que c'est trop galère, c'est trop chiant de changer toutes les 5 secondes. Donc tu mets les albums en fait en boucle et j'ai envie avec cet album, qu'on mette cet album dans la bagnole et qu'on se dise, bon, attends, on va passer 35 minutes avec ce Goldie là, qui est
Voyons
à moitié à poil, et on va voir ce qui va se passer. Et ouais, c'était vraiment quand même pour ça, quoi. Le premier album, je l'avais vraiment écrit pour que les gens vraiment, genre, baissent dessus. Et le deuxième album, je me suis dit, moi, c'est peut-être mieux d'emmener les gens en voyage et de.
ce que c'est mieux, c'est différent.
C'est vraiment différent, c'est quelque
Voilà.
chose à dire.
En tout cas, merci beaucoup.
Merci à toi, Faustine,
Je
ça me
suis
fait plaisir.
ravie.
Désolé pour le parler du nez autant comme ça, mais.
Merci à Adam et Ed pour leur accueil, mais surtout à Adam pour son album. Merci à Erwan et à toute l'équipe de La Fraîche List et à Philippe de Radio Campus Paris de me suivre dans mes monomanies et délires d'envoyé spécial. Merci à vous. La sélection musicale de La Fraîche List, c'est à l'antenne et en playlist Spotify quand vous voulez. À bientôt.
There's no doubt, and you knew all of It's a sunny ride.